Parents et amis.
Parents et amis.
Voici Sarah.
Voici Sarah.
Sarah Ursula Terrien.
Ursula Terrien.
Salut Sarah, comment ça va?
Bon matin, super
bon matin.
Bien.
C'est fou l'actualité. On n'a pas le temps de se voir, on n'a pas le temps de se parler.
Ça roule.
C'est complètement fou, ça roule. Là, on s'arrête, on relaxe. Et on va revenir sur un dossier qui a paru dans le Journal de Québec, Journal de Montréal en fin de semaine. On n'analysera pas nécessairement en long et en large les résultats c'est pas un sondage, c'est une étude sur les cégeps, le grand bilan, le palmarès des cégeps. Tandis quoi? On est allé un peu dans tous les sens. Là, on a parlé, entre autres, de la réussite en français. Tu veux commencer par ça, hein, je pense?
Bien, en fait, effectivement, comme tu dis, on ne va pas commencer à analyser toutes les statistiques pour chaque cégep. Je pense qu'on y passerait la journée. Par contre, le français, effectivement, on a quand même des tendances qui sont à souligner, qui sont pas nécessairement catastrophiques, mais quand même qui sont constantes dans les dernières années, notamment le taux de réussite qui est en diminution marquée pour l'épreuve uniforme de français au cégep. Donc, oui, je pense que c'était quand même important d'en parler parce que, les résultats de français au cégep, ce n'est pas un point de départ. C'est plutôt une mesure statistique qui nous indique que le problème prend origine beaucoup plus tôt et qu'on a énormément de travail à faire, pas à commencer au cégep, mais plutôt bien avant au primaire.
Ben c'est la question que je vais te poser, je le sais que c'est ton point numéro 4, là, mais moi, c'est d'entrée de jeu, j'y pense tout de suite. Puis j'ai parlé avec des profs de cégep qui m'ont dit, il y a l'effet pandémique. La pandémie, les kids qui étaient en secondaire 2, surtout 3, 4 et 5, durant la pandémie, c'est clair que le train a débarqué pour certains d'entre eux. Pas tous, il y en a qui sont doués plus que d'autres et il y en a qui réussissent à s'en sortir. Mais il y a vraiment un effet pandémique. Et peut-être que pour ces résultats-là en français, mais peut-être que ça a marqué, justement. Je ne sais pas. T'en dis quoi, toi?
Il y a beaucoup de points intéressants à dire sur le sujet. Effectivement, on ne peut pas nier qu'il y a quand même un effet pandémie au sens où les jeunes qui sont actuellement au cégep là, étaient vraiment dans le début de leur secondaire lorsque c'est arrivé. C'est quand même une période qui est importante pour la consolidation des habiletés qui doivent être faites finalement en français. Tu sais, le français, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout d'abord, les habitudes de lecture autonome se consolident sérieusement entre 6 et 12 ans. Donc ça, c'est vraiment l'âge primaire. Puis, il y a ce qu'on appelle là, dans les sciences de l'éducation l'effet Matthew, qui explique en fait un peu le principe que plus un jeune va avoir de la facilité dans la lecture, plus il va lire. Plus il lit, plus il va enrichir son vocabulaire. Plus il enrichit son vocabulaire et plus sa compréhension va s'améliorer. Et plus sa compréhension va s'améliorer, plus il va chercher à continuer de développer ses compétences. Fait que c'est vraiment une roue qui tourne dans le bon sens. Mais le contraire est aussi vrai. Un jeune qui a déjà des vulnérabilités en français risque d'être porté à moins lire. Cependant, s'il lit moins, ben on comprend bien qu'il y a beaucoup moins d'opportunités de développer ses capacités au niveau de la lecture. La lecture, c'est pas quelque chose qui est automatique pour le cerveau. Donc, c'est vraiment une compétence qu'on doit absolument développer pour que ça devienne davantage un automatisme et libérer ce qu'on appelle notamment la mémoire de travail dans le cerveau, tout ce qui est au niveau des fonctions exécutives.
Faut que t'aies l'attention, aussi. Tu sais, on parle beaucoup de déficit d'attention. Donc, d'entrée de jeu, d'avoir un livre. Oui, je sais, là, il y a le phénomène des livres numériques. Mais j'enlève ça, là, un vrai livre. Donc, tu prends ta distance d'une tablette, il faut que tu te concentres, puis il faut que tu saches retenir la mémoire. Mais juste l'aspect de la concentration, je te lance ça comme ça, il y a de plus en plus de jeunes qui ont de la misère à se concentrer. Peut-être que ça n'aide pas nécessairement en lecture aussi, là. C'est un des facteurs, j'imagine, à considérer, hein.
Ben t'as tout à fait raison, puis ça faisait partie de mes points justement. Donc par rapport à la concentration, ben veux pas, on vit à une époque numérique où notre concentration est constamment mise à rude épreuve, je dirais, puisqu'elle est très fragmentée. Donc, tout ce qui est contenu court sur les réseaux sociaux, de quelques secondes qui s'enchaînent un après l'autre, les notifications qui n'arrêtent pas, le multitâche, hein, c'est rare maintenant là, qu'on fait juste une chose à la fois. Là, souvent, on est comme concentré sur 3, 4, 5 affaires en même temps.
Comme Doom Dumas.
Ça, c'est très possible. donc voilà, en fait, c'est toutes sortes de choses qui font que bien, ça va venir modéliser puis formater nos capacités attentionnelles, mais ça va faire que nos capacités à rester concentrées longtemps sur une seule, même et unique tâche vont devenir beaucoup plus fragilisées. Donc, l'épreuve uniforme de français, c'en est un bon exemple. Écoute, tu dois rester pendant 4 heures de temps. Il faut que tu commences par lire un texte. Après ça, tu dois analyser, tu dois structurer, tu dois faire un plan, tu dois ensuite rédiger.
À l'époque de TikTok, avec des vidéos de 5, 10, 15 secondes, bang, c'est pas évident, là.
C'est sûr que c'est pas évident. Puis, ben, tu sais, c'est multifactoriel, finalement, là, cette diminution-là de la réussite. Donc, oui, il y a des choses à mettre en place dès les premières années du primaire, notamment par rapport à la lecture. L'écriture, d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé. Il y a le bout par rapport aux capacités attentionnelles aussi qui est à surveiller. L'écriture, puis ça, justement, ça a été même documenté là, en lien avec la pandémie. Je reviens là-dessus. Pendant la pandémie, veut pas, les jeunes à la maison ont eu beaucoup moins d'opportunités d'écrire des textes et d'obtenir des rétroactions détaillées sur leurs textes, les erreurs qu'ils ont pu faire, pourquoi la structure de texte peut-être fonctionne moins bien, qu'est-ce qui serait à modifier, à améliorer pour les prochaines fois. Et ça, c'est vraiment les deux points qui sont les plus significatifs là, par rapport au français. Donc, on doit se pratiquer à écrire et on doit obtenir des rétroactions détaillées. Puis, bien évidemment, bien, la base provient des capacités en lecture. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment là, remettre de l'avant, mais dès le primaire. Tu sais, dans le fond, le cégep, ce qui se passe présentement au cégep, c'est juste la pointe de l'iceberg, mais ça prend origine bien avant. Là.
C'est vrai. En amont, avec des sujets intéressants, peut-être aller fouiller dans le curriculum aussi, là. T'sais, bonheur d'occasion, c'était bien le fun, là. Mais on n'est plus en 75. Là. Peut-être intégrer des livres plus intéressants. Puis je dis pas que les écoles ne le font pas. Peut-être que le privé a une plus grande latitude, j'en sais trop rien. Mais amener quelque chose qui va intéresser davantage les jeunes, plus collé sur les grandes tendances. Le livre est en santé. Là. T'sais, on a beau dire, oh, regarde le livre... les librairies vont mal. Au contraire, les librairies, les petites librairies québécoises, pour vrai... Elles sont en santé. Moi, je vais souvent. Le livre jeunesse québécois est en santé. Et moi, je pense qu'il faut revigorer le curriculum à l'école, est plus nourrissant puis intéressant, puis trouver le moyen de raccrocher les jeunes aux primaires, comme tu le dis, parce que ça joue entre quoi, 10 et 12 ans, hein?
C'est ça que tu disais? Entre 6 et 12 ans. Exactement.
6 étant l'apprentissage de base de la lecture.
Mais je vais remonter même avant ça. T'sais, l'intérêt pour les livres, c'est quelque chose qui se développe dès les premières années de vie. Donc, tu comprends, un enfant, à partir de sa première année de vie, c'est super pertinent de commencer à l'exposer déjà à des livres. Même si c'est des livres ou c'est majoritairement des images, de lire des histoires pour l'enfant, de lui montrer les mots qui soient exposés à ça. En fait, l'intérêt pour la lecture se développe dans la petite enfance, mais pour ça, les enfants doivent être exposés à ça, les amener à la bibliothèque. Donc, il faut développer cet intérêt-là. Puis, c'est ce qui va faire aussi par la suite que dès l'entrée au primaire, l'enfant a déjà un intérêt, a déjà des connaissances de base, va déjà avoir photographié certaines lettres, certains mots dans sa mémoire. Donc, ça facilite aussi là, la transition quand on rentre en maternelle.
L'autre chose, c'est l'écart entre les cégeps des grandes villes et ceux des régions.
Absolument. C'est un autre point super intéressant parce que, bon, on le voit clairement, les cégeps des grands milieux urbains, là, majoritairement Montréal, obtiennent de moins bons résultats, tandis que ceux en région semblent vraiment être les cégeps qui se démarquent. Pourquoi? Bien, écoute, c'est assez simple, finalement, la réponse. Dans les centres urbains, notamment Montréal, on a une hétérogénéité beaucoup plus grande de la clientèle. Donc, on a plusieurs élèves dont, par exemple, le français n'est pas la première langue maternelle, qui ont une grande diversité culturelle, linguistique également. On a des gens avec des parcours migratoires qui sont parfois, qui les ont amenés à étudier dans différents pays, dans différentes langues. Donc, c'est des profils qui sont beaucoup plus hétérogènes que ce qu'on va retrouver en région. C'est des milieux, donc, qui auraient besoin de beaucoup plus de mesures plus spécialisées, hein, qui vont être adaptées aux besoins des gens. Cependant, ils n'ont pas nécessairement les capacités puis les ressources pour mettre tout ça en place. Donc, c'est des mesures beaucoup plus uniformes pour tous les élèves, mais qui correspondent pas nécessairement à leurs besoins. Ce qui nous amène d'ailleurs aux pistes de solutions de qu'est-ce qui fonctionne bien dans les cégeps en région. Ben, premièrement, justement, c'est des milieux qui sont souvent plus petits, où il y a un plus grand sentiment d'appartenance qui s'installe. Et ça, veut pas, ben, premièrement, ça joue sur la motivation. Deuxièmement, qui fonctionne comme mesure et qui a été démontré. Donc, dès la première session au cégep, on fait des classes plus petites. Donc, au lieu de grandes classes de 30 élèves, on va prioriser des classes de 20 élèves pour être en mesure de soutenir les apprentissages de façon beaucoup plus personnalisée, de créer un lien, de dépister plus rapidement ceux qui peuvent avoir des difficultés. Ensuite de ça, on voit que les centres d'aide aussi en français donnent des super bons résultats. Puis là-bas, ce qu'ils font, c'est qu'une fois qu'ils voient que le service commence à saturer, ils engagent des élèves qui, eux, sont en super réussite. Puis dans le fond, ça devient comme un emploi étudiant. Ces jeunes-là sont rémunérés et peuvent soutenir leur père. Exactement. Donc vraiment, le principe de mentorat, de père aidant. Et ça, on voit que ça démontre des super bons résultats aussi. Et la pratique des épreuves uniformes de français. Donc, à chaque session, il y a, dans certains cégeps, une pratique d'une épreuve uniforme de français, ce qui fait que les jeunes, quand ils arrivent à la vraie épreuve, sont beaucoup mieux préparés. Et ont des capacités au-delà de d'autres milieux. Là.
Si j'ai bien compris, en terminant, on n'abolit pas le cégep. Dans ta tête.
Ben
là.
Non, on abolit
Sarah,
pas le cégep.
Sarah, la ministre de l'Éducation, abolit pas le cégep.
C'est vraiment pas une... C'est pas une situation qui est catastrophique, mais quand même, ça nous lève des petits drapeaux rouges à gauche, à droite sur OK, qu'est-ce qui fonctionne pas puis qu'est-ce qu'on doit faire? Mais c'est pas vrai que ça commence au cégep. Là. Il y a beaucoup de choses qui prennent origine bien avant. Ça nous donne quand même des bons indicateurs. Les statistiques, ça peut rester quand même intéressant. Il faut faire attention des fois au marchandisage là, de l'éducation. Là, on sait que ça avait déjà sorti là, cette critique-là, notamment pour les écoles secondaires, mais en même temps, ça donne des informations qui peuvent être intéressantes pour les familles, pour surtout aussi au niveau du gouvernement. Hein. Donc, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien, donc qu'est-ce qu'on doit changer?
Très bon. On peut te rejoindre à quelle place? Parce que t'as encore de la place dans ton agenda pour des consultations.
Oh là là,
ta clinique,
écoute,
c'est quoi? C'est où? Vite de même.
Ça va vite. C'est la clinique Le Chemin de la Résilience. On est situé à Charlebourg, donc au 91-71 boulevard Henri Bourassa. Les gens peuvent nous rejoindre là. Le plus facile, c'est vraiment de se rendre sur notre site web www.lechemindelarésilience.com. Dans la section contact, il y a un formulaire que vous pouvez compléter si vous avez besoin de services. En plus, ça va super bien. On a notre équipe qui continue de grandir. Alors, on a un nouvel intervenant là. Intervenant psychosocial, psychoéducateur en devenir.
Oui.
Donc, des fois aussi, il y a des gens qui aiment mieux travailler avec un homme. Alors, on en a un maintenant dans notre équipe. On a une travailleuse sociale.
Comment il s'appelle? On va le plugger.
Gabrielle.
Bon.
Donc, notre cher Gabrielle qui a commencé avec nous.
Let's go, Gabichou.
On va lui passer le message. Il va vouloir écouter ça. On a une travailleuse sociale aussi qui vient de commencer avec nous. Une hypnothérapeute également. Alors, on a vraiment une multitude de services présentement là, qui peuvent répondre aux besoins autant des enfants que des adultes. Alors oui, c'est le bon moment à ce temps-ci de l'année de faire une demande, surtout en vue là, des vacances qui s'en viennent pour l'été.
L'hypnose, tu parleras de ça à un moment donné. Je ne sais pas, c'est... Ça marche-tu? Tu sais, j'ai toujours peur qu'on me fasse faire le chien.
Ah, mais là, faut vraiment différencier l'hypnose de spectacle.
T'en parleras,
là,
on n'a pas de temps. Là.
L'hypnothérapie.
Tu me fais-tu dire des affaires que je veux pas dire? Tu sais, à un moment donné, on se fera un bloc, une chronique. Oui. Tu reviendras dans deux semaines, je veux que tu nous parles de ça.
Vive le tramway.
Ouais, tu vas-tu faire dire des choses à Dan?
Moi, je suis pas hypnothérapeute, hein, là, de toute façon, je le précise. Mais écoute, je l'amènerai avec moi, si vous voulez.
Très bon. Hey, merci, Sarah. Merci
ça
d'être passée.
Plaisir.
Extraordinaire. Ciao. La